Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine de novembre et première de décembre. Oui, c'est les deux. Bienvenue au deuxième service du réchaud. Ben oui, dimanche, ce sera déjà le 1er décembre. Mon Dieu, que l'année a passé vite. Bienvenue au deuxième service du réchaud sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Max Bergeon, de retour. Cette fin de semaine... Tranquillement, pas vite. On s'en va vers le congé des fêtes. Je sais pas à Québec, mais Sherbrooke, vendredi matin, au moment d'enregistrer, s'est réveillé avec un couvert blanc de neige. Un premier tapis de neige. Et moi, ça me met content. Je suis content d'avoir de la neige en décembre. Parce que Noël, il est supposé avoir de la neige, il n'est pas censé pleuvoir. Et évidemment, ce petit couvert de neige-là ne restera pas jusqu'au 25. Mais c'est plus le fun Noël avec de la neige, me semble. Bon, ça, c'est nos habitudes québécoises qui font en sorte qu'on est habitué d'avoir de la neige à Noël. Mais profitons-en, le temps que ça dure. Ils l'ont dit. Ça va être un hiver peut-être un peu plus doux, avec plusieurs possibilités d'averses, surtout pour le sud du Québec. Abitibi, Côte-Nord, Saguenay vont être corrects niveau neige. Mais nous autres au sud, c'est une autre paire de manches. Février... Si c'est pas une journée, ne devrait pas connaître de trop grandes chutes de température. Il faudra s'habituer, malheureusement. Sinon, ce qui a fait énormément couler d'encre du côté d'Ottawa cette semaine, c'était le congé de taxes. Et les chèques de 250 $ qui doivent être envoyés au printemps, promis par le gouvernement de Justin Trudeau. Au tout début, la semaine dernière, le NPD se vantait d'avoir été l'investigateur de l'idée. Le Parti conservateur disait à mots couverts qu'il allait voter contre. Et le Bloc québécois disait qu'il allait voter contre parce que les régimes de retraite... ne faisait pas l'affaire des personnes âgées. Cette phrase-là est drôlement dite, mais essentiellement, il y a des changements au niveau du régime de retraite qui excluaient une certaine catégorie d'âge que le Bloc québécois juge normalement devrait être incluse, demande au Parti libéral de les réinclure. Et il disait, ben, si c'est pas dans le projet de loi... de congés de taxes et de remise de chèques, on voterait contre. Cette semaine, on a appris qui seraient les personnes qui pourraient recevoir les chèques de 250 $. Et là, soudainement, le NPD était moins content d'avoir dit que c'était grâce à eux si ça allait arriver. Parce que les gens qui gagnent moins de 150 000 $ étaient éligibles et s'ils avaient travaillé. Donc, évidemment, les retraités qui n'ont pas travaillé, techniquement, ne sont pas censés recevoir le chèque de 250 $ au printemps. Techniquement. Ce qui a fait en sorte que pour être certain d'avoir au moins un des deux, pour pouvoir aller en campagne et dire « Regardez ce que nous, on fait pour vous », on a décidé de scinder les deux. Donc, le congé de TPS est un projet de loi du 14 décembre au 14 février 2025. 14 décembre 2024. Donc, pendant deux mois, congé de taxe sur une coupe d'affaires jugée essentielle, dont la bouffe préparée en épicerie qui normalement est taxable, elle ne serait plus. Des items pour enfants, des sièges pour bébés, des livres pour tout âge. L'alcool au restaurant dans certaines conditions, si ça ne dépasse pas tant de pourcentage d'alcool, etc., etc. Il y a plusieurs trucs qui devenaient sans taxe pendant deux mois de temps. Et le deuxième projet de loi, des chèques de 250 $ qui, eux, vont avoir beaucoup plus de misère à passer. Ce qui a fait en sorte que jeudi soir, ou dans la nuit de jeudi à vendredi, le projet de loi visant à créer un congé de deux mois de TPS a été adopté 176 voix contre 151. Les libéraux ont eu l'appui du NPD, comme prévu malgré tout, pour faire passer le congé de TPS. Donc, les conservateurs, parce que c'est une idée libérale, ils votaient contre de toute façon. Le Bloc s'est rangé de l'autre côté. Et de ce que je comprends, le Parti vert aurait voté contre aussi. Ou on le mentionne pas parce qu'ils sont juste deux, mais c'est pas précisé dans l'article que j'ai sous les yeux. Pour Pierre Poilievre, qui aime beaucoup les slogans, il est désespéré. C'est pour ça qu'il a annoncé de faux cadeaux de Noël, irresponsables, inflationnistes, électoralistes, pour sauver sa peau. C'est irresponsable. Donc, les mots-clés sont « il est désespéré et c'est pour sauver sa peau ». Surveillez que plusieurs conservateurs vont dire la même chose dans les prochains jours. Poilievre s'est défendu que les congés de taxes devraient être sur les premières maisons. Aucun lien, mais lui, quand il sera élu premier ministre, il dit qu'il va enlever la TPS sur les nouveaux logements et de couper le gaspillage et la bureaucratie excessive pour réduire le déficit et de réparer le budget pour protéger le pouvoir d'achat de tout le monde. C'est le slogan habituel. Pour la blague, la ministre québécoise Soraya Martinez a fait radar la traité de grincheux qui ne veut pas voter pour un congé de taxes. C'est une bonne guerre. Selon son collègue ontarien, Peter Frigiskatos a rappelé que les conservateurs avaient promis une baisse temporaire et ciblée de la TPS lors des dernières élections, mais maintenant la rejette parce que c'est une initiative libérale et que le vrai Pierre Poilievre se lève dans cette Chambre des communes. Peu importe ce que ça veut dire, les bloqués se sont aussi retrouvés sur la sellette après avoir annoncé leur couleur mercredi. Les libéraux leur ont reproché de refuser d'aider les Québécois et le NPD de s'allier. Les libéraux disaient, des bloquistes, qu'ils refusaient d'aider les Québécois et le NPD disait du Bloc qu'il s'allie à Pierre Poilievre alors que les gens en arrachent et ont de la difficulté à payer leurs factures et à payer leur loyer. Effectivement, 250 $, ça peut aider à payer de l'hydro un petit peu, payer un loyer, on y repassera. On parle d'achat de vote, le congé de TPS sera en vigueur du 14 décembre au 15 février. Ah, finalement, la Saint-Valentin est incluse. Touche des dizaines d'articles couramment achetés à Noël, notamment les vêtements, les jouets pour enfants, les jeux vidéo, les consoles, les arbres de Noël, parce que tout le monde achète son sapin le 14 décembre, c'est connu. Les repas dans les restaurants, les traiteurs, le vin, la bière, les bonbons. Le NPD a accepté de soutenir le projet de loi et de forcer un temps d'arrêt à l'obstruction des conservateurs qui bloquent la Chambre depuis près de deux mois. Il avait néanmoins exigé que le gouvernement dissocie la promesse d'envoyer de 250 $ à la plupart des travailleurs canadiens au printemps du projet de loi sur la TPS. Parce qu'en ce moment, ni pour les conservateurs, ni pour le Bloc, ni pour le NPD, on veut voter l'envoi de chèques gratuitement comme ça. Évidemment, le Bloc va essayer de passer son truc sur les régimes de retraite. Et le NPD veut élargir peut-être la définition de ceux qui vont recevoir le chèque de 250$. S'ils veulent avoir, si les libéraux veulent avoir l'appui de un ou l'autre, ils devront se plier aux conditions. Tandis que les conservateurs ruminent dans leur coin et disent que c'est une idée de marde parce que c'est pas eux autres qui l'ont eu. Le gouvernement calcule qu'une personne dépensant 2000 $ Attends un peu. La formation politique, donc les libéraux souhaitent que cette le NPD souhaite que cette prestation soit étendue, voilà, aux retraités, aux personnes handicapées qui n'ont pas de revenus d'emploi. Le gouvernement calcule qu'une personne dépensant 2000$ pour de tels articles au cours des périodes de 2 mois économiserait entre 100 et 260$ selon la province où elle réside. Donc, c'est deux informations complètement distinctes. Le NPD, voilà, c'est pour ajouter certaines personnes qui auraient besoin de 250$ parce qu'elles n'ont peut-être pas pu travailler pendant l'année 2023. Finalement, le gouvernement dit que si on fait pour à peu près 2000$ de dépenses avec le congé de taxes, ça revient à 100 jusqu'à 260$ de plus dans nos poches. Parce qu'il ne faut pas oublier que selon les provinces, la taxe provinciale n'est pas tout à fait comptabilisée de la même façon comme nous autres au Québec. On calcule la TVQ sur la TPS. Dans ce cas-ci, ben, on enlève le 5 % avant de calculer. Donc déjà là, ça fait une petite différence. Évidemment, ça fait une différence de 2-3$ sur une facture de temps, mais ça reste quand même qu'il y a un petit congé et que le gouvernement se prive d'un milliard quelque avec ces dépenses-là, surtout à la veille du temps des fêtes, même si le mois de janvier, c'est celui où on dépense moins, parce qu'on regrette d'avoir dépensé autant au mois de décembre et que la visa est déjà pleine. Donc, la différence s'explique, voilà, par le fait que les quatre provinces de l'Atlantique et de l'Ontario ont une taxe de vente harmonisée avec Ottawa, ce qui signifie que la totalité est de 15 % dans l'Atlantique et 13 en Ontario, ce sera supprimé, comparativement à nous autres au Québec, où on calcule la TVQ sur la TPS. Voilà, c'est harmonisé. Fait que c'est une seule taxe mélangée, mais là, il va falloir qu'on crée quelque chose ou qu'on enlève un pourcentage. Bonne question. Le Canada n'a bien sûr pas pris de mesures compensatoires pour les pertes de recettes des provinces, comme l'a fait le gouvernement fédéral pour la TPS. Au niveau fédéral, cette mesure devrait coûter 1,6 milliard. Voici le montant qui ne sera pas perçu. Ce projet de loi est le premier à avoir été débattu à la Chambre des communes depuis la fin du mois de septembre, parce que sinon, les conservateurs sont toujours fâchés contre le gouvernement. Et ces mêmes intéressés refusent de mettre fin à la paralysie de la Chambre tant que les libéraux n'auront pas dévoilé des documents non expurgés sur des allégations de dépenses abusives d'un fonds fédéral pour les technologies vertes qui aujourd'hui seraient disparues. Fait qu'il y a une raison à cette obstruction-là, mais elle reste quand même un peu floue. Normalement, d'ici la fin des travaux pour le congé des fêtes, là, on devrait commencer à parler des chèques. Mais comme je le disais, c'est vraiment pas gagné d'avance pour le Parti libéral parce que tout le monde arrive avec ses petites conditions de dire « Oui, mais on va t'appuyer juste si tu fais ci ou ça ». Donc, c'est ça. C'est pas parti gagné. C'est pas parti... ce sera pas une marche dans le parc, « walk in the park » pour le Parti libéral. Et ça va rester quand même assez compliqué. Est-ce que réellement, il y a des gens qui attendaient ce chèque de 250$-là pour faire en sorte qu'ils allaient voter pour Justin Trudeau à la prochaine élection? Bien évidemment que non. On ne s'en plaindra pas, c'est sûr et certain. Mais à coût de 150 000$, ça reste quand même un peu absurde que deux personnes qui gagnent, par exemple, 298 000$ salaire combiné vont quand même tous les deux recevoir 250$ chaque, donc vont recevoir un 500$ au même titre que la personne qui a gagné à peu près 50 000 va en recevoir 250$. Donc pour ça, évidemment, c'est complètement absurde. On se souviendra des caricatures qui avaient été faites quand François Legault avait fait la même chose avec son 500$. Le couple aisé disait « Cool, on va pouvoir s'acheter une nouvelle tablette. » Et la famille qui a de la misère à joindre les deux bouts « Cool, on va faire une épicerie pleine cette semaine. » Fait que c'est deux réalités totalement différentes, évidemment. Et ça reste un retour d'impôt de dire que c'est électoraliste pour acheter des votes. faut pas charrier non plus. Ils l'ont à peu près tous fait. François Legault l'a fait. Rob Ford va le faire, lui-même en Ontario, avec son congé de taxe sur la bière aussi. Si c'est pas électoraliste, qu'est-ce que c'est? Donc, voilà, on en est là. Le congé de TPS est approuvé. Les magasins devront réarranger leurs terminaux pour être capables de ne pas faire payer la TPS aux consommateurs pour 2 mois en plus. Mais sinon, ben, ça en vaudra la peine sur certains achats. Donc, ceux qui sont habitués de magasiner leurs cadeaux de Noël un peu dernière minute, eux seront comblés et feront peut-être des économies de 10$. Mais essentiellement, est-ce que c'était si attendu et si nécessaire? Évidemment, la question peut se poser. Mais reste que c'est pas moins important ou c'est pas moins intéressant parce que c'est Justin Trudeau qui le fait. Ça, c'est la défaite du Parti conservateur. Et en même temps, ça reste quand même que si le Parti libéral n'était pas 20-25 points dans certains sondages derrière les conservateurs, peut-être est-ce que ce congé de taxe-là n'existerait pas ou en tout cas ne serait pas dans les cartons si immédiat que ça pour le temps des fêtes. C'est des suppositions. On y va de peut-être. Mais tout ça pour dire que ça reste, oui, dans les apparences, de manière ultra-électoraliste. Est-ce que ça va faire une si grosse différence? Correct sans plus. Mais est-ce que c'est vraiment pour acheter des votes? Évidemment que non. Il n'y a personne qui attendait ce chèque-là pour dire « Ah oui, maintenant, je vais voter pour Justin Trudeau. » Ça n'arrivera pas. On s'arrête là-dessus. Au retour, on continue à regarder l'actualité de la semaine, ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Dans les trucs, ben, comiques. C'est vite dit. Souvent, on a parlé, bon, de ces... gens qui soudainement deviennent des ce qu'on appelle des citoyens souverains. Pour en avoir parlé un peu de la reine Romana Didulo, reine autoproclamée, qui fait à croire aux gens qu'ils ont maintenant plus aucune obligation de payer leurs taxes parce qu'elle a décidé, elle, par décret royal du nouveau royaume du Canada, que les gens n'avaient plus besoin de payer leur hydro, plus besoin de payer leur taxe municipale. Et ça fait en sorte que dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une famille qui a été obligée de mettre sa maison. Ben, en fait, non. Ils n'ont pas payé leurs impôts municipaux, leurs taxes municipales. Et ça fait en sorte que la banque a saisi leur maison et l'a revendue à 10 % 15 % de sa valeur pour essayer de payer les créanciers. Donc, elle met des... du monde dans le trouble. Et parmi ces gens-là, et c'est arrivé, en fait, c'est un gars de la Saskatchewan qui se promène à travers le Canada pour, on ne sait pas trop quoi, prêcher la bonne parole, ou en tout cas, ben, sa parole à lui, en tout cas. Et ça fait en sorte qu'il se promène sans plaque d'immatriculation parce que ben, il croit pas à ça, les plaques d'immatriculation, première chose. Et comme il est souverain, comme il décide ses propres lois parce qu'il n'adhère pas aux lois en vigueur, ben, selon lui, c'est correct de rouler pas de plaque parce que normalement, une plaque d'immatriculation, c'est pour ceux qui font des longs trajets de voyage, puis lui, ben, comme il fait juste se promener, ça compte pas. En tout cas, ça dépend des églises auxquelles il loge, mais il y en a, entre autres, que c'était ça leur défense. C'était que, ah, mais moi, je fais pas des voyages avec mon auto, je vais juste travailler. Mais ça reste quand même une auto sur la route. Fait que peu importe ta destination, tu as besoin d'être plaqué. Et une petite plaque en carton qui dit « Je n'ai pas besoin de plaque », ce n'est pas un argument valide. Donc, un citoyen souverain qui s'est filmé sur les routes du Québec en prétendant que les policiers de la ville, les policiers de Québec l'arrêtaient pas. C'est finalement fait arrêter du côté de l'Ontario. Évidemment, ce monde-là se filme à longueur de journée. Donc, il était en direct sur Facebook lorsqu'il s'est fait intercepter et par les polices de l'Atlantique, et par la police du Québec, et par les polices de l'Ontario pour s'en retourner en Saskatchewan. On le devine, mais son trajet s'est arrêté en Ontario dans ce cas-ci. Le gars se dit s'appeler Ewan Chuck. Ne reconnaît pas la légitimité des lois de l'État canadien. Il s'est lancé à la mi-novembre dans un voyage derrière le volant d'un Dodge Caravan blanc avec un drapeau pro-Trump et une affiche « Fuck Trudeau » et d'autres notes manuscrites sur son char, genre « Je suis la souveraineté de droit naturel privé » au lieu de la plaque d'immatriculation dans son véhicule. Donc, c'est vraiment inventé, une plaque d'immatriculation. C'est sans rappeler non plus le roi de Taïos. Lui, ce gars-là, avait décidé qu'une zone forestière en Abitibi et sur l'île d'Anticosti, me semble, ces deux territoires-là lui appartenaient en tant que roi de Taïos. Et lorsqu'il se promenait en Abitibi, ben, il n'avait pas besoin de plaque d'immatriculation du Québec parce que c'était un dignitaire d'un autre pays. C'était le dignitaire d'une province protégée, ou en tout cas, il n'avait pas besoin de plaque. Évidemment, il s'est fait arrêter en Abitibi en se promenant sur les routes. On a towé son char, littéralement sur place, parce que, surprise, il y avait des étiquettes de pas payer dans le véritable royaume de la vraie vie. Et avait fait des menaces au gars du towing et aux policiers. Donc, après ça, ils sont allés le rechercher pour menace. Et normalement, il est supposé être en prison. Fait que c'est une grosse année, pareil, pour les citoyens souverains qui émergent tranquillement, pas vite, au Canada, malheureusement. Ils souhaitent... En fait, le gars, je reviens à... Comment il s'appelle? Ewan Chuck. Il souhaitait rouler à travers le Canada en partant de la Nouvelle-Écosse, donc la traversée de la province. Mais voilà, son aventure a pris fin lorsqu'il a quitté le Québec mercredi soir dernier. Deux policiers l'ont arrêté vers 21h30 sur l'autoroute 401 à Cornwall, en Ontario, en l'absence de plaque. Lui, ce qu'il disait, c'était que, ben, vu qu'il s'était rendu jusqu'en Ontario, ben, c'est parce que les autres policiers l'avaient laissé aller. Peut-être qu'il l'avait laissé aller, mais sûrement avec des contraventions de chaque province qu'il ramassait depuis ce temps-là. Ça, évidemment, l'histoire ne le dit pas, mais ça serait surprenant que le policier québécois l'ait juste... Le gars de la SQ l'ait juste laissé aller comme si de rien n'était, même s'il prétendait le contraire dans sa vidéo, parce que, surprise, son altercation avec la police du Québec s'arrête juste avant qu'il revienne pour remettre le dit ticket. Et tout le long, d'ailleurs, que le policier québécois est en train de signer son papier, ben lui chiale dans son char que c'est n'importe quoi, que la radio, il y a juste des affaires francophones. Moi, j'aime pas ça, les affaires francophones. Puis le policier parle pas anglais, c'est pas normal. Au Québec, buddy, là, maintenant, là. Dans les heures précédant son arrestation, Nicolas Ewan Chuck, ah voilà, Ewan Chuck, son nom de famille, a été intercepté par les policiers du Québec. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Je viens d'entrer dans la province la plus maléfique du Canada. Ça, c'est nous autres. Avait-il écrit sur sa page Facebook en prenant en photo la frontière néo-brunswickoise et québécoise. Et voilà, alors qu'il roulait sur l'autoroute, un agent de la SQ l'a arrêté vers 13h20. C'est pour ça que vers 9h30, il se fait arrêter encore une fois en Ontario. Selon Rob Martle de la police provinciale de l'Ontario, Nicolas Ewan Chuck a été placé en détention à Cornwall en vue d'une enquête liée à son arrestation. Il est accusé notamment de possession de biens obtenus par le crime de plus de 5 000 $, de défaut de se conformer à une ordonnance de probation, donc il n'était peut-être même pas censé quitter Saskatchewan, d'obstruction envers un agent de la paix, on peut le voir dans la vidéo en Ontario qui se fait sortir de son char. Il pourrait faire face à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans de prison. Plusieurs autres accusations liées au code de la route ont également été portées, notamment pour ses plaques dans toutes les provinces qu'il a réussi à faire jusqu'à ce moment-là. Le véhicule a été remorqué de l'autoroute et un avis a été envoyé au service de police de la Saskatchewan pour qu'il vienne le chercher. Toujours selon le sergent Martle. Donc, comme quoi, s'inventer des lois, faire semblant d'être dans un monde qui carrément n'existe pas, ben ça donne des affaires comme tu vas t'en aller 5 ans en prison pour avoir roulé dans un char pas conforme, pas plaqué, avec du matériel possiblement volé à l'intérieur. Fait que, morale de l'histoire, faites pas ça. Ça va être ça le conseil, mettons. Faites pas ça. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et Chiz 94.3 à Québec. Un point soulevé par le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Oui, il y en a un, c'est lui. Aurait reçu une lettre d'un étudiant de Repentigny qui disait au ministre qu'il déplorait que les jeunes de sa génération ne connaissaient pas la culture québécoise. Ça, c'est la prémisse. Le ministre est allé à la rencontre vendredi matin à l'école de Repentigny, il y a une semaine ou deux, pour rencontrer les étudiants en question. Il disait, c'est sûr que ça m'a interpellé, parce que d'abord, c'est un jeune. Je suis moi-même père de deux jeunes enfants. Je suis responsable de la jeunesse comme ministre. Ah bon? Puis il faisait un lien direct avec la culture, c'est-à-dire ce qu'il voit autour de lui. C'est des jeunes qui, peut-être, ont de la difficulté à s'identifier à la culture québécoise, donc ça m'a interpellé. Au gré de la conversation, quand je lui demande pourquoi la culture québécoise vous intéresse moins, il m'explique clairement qu'ils ne se sentent pas québécois et que leur culture d'origine, c'est la culture qu'ils souhaitent conserver et qu'ils ne se sentent pas québécois. Et ça, j'avoue, ça m'a secoué. Quand je leur demandais à main levée qui a écouté un film québécois dans la dernière année, il n'y avait à peu près pas de main levée, de main qui se levait. Quand je leur demandais s'ils écoutaient de la musique québécoise, il n'y avait à peu près pas de main non plus qui se levait. Les jeunes eux-mêmes me disaient « Je pense qu'on ne consomme pas de culture québécoise parce qu'il y a beaucoup d'immigration. Okay. On est plusieurs à venir d'ailleurs, donc c'est difficile pour nous de s'accrocher à la culture québécoise parce qu'on arrive avec notre culture et on est entouré de gens qui ont la même culture que nous, donc une culture qui n'est pas québécoise et qui vient d'ailleurs. » Et ça m'a frappé parce que c'est la question ensuite. Qui ici se considère comme québécois? Et je vous dirais qu'il y a une personne sur dix, deux personnes sur dix qui ont levé la main dans un auditorium d'une école secondaire de banlieue à Repentigny. Ouais. OK. Je connaissais la prémisse, mais je peux comprendre que si dans une école donnée, ça pourrait avoir l'air problématique. Est-ce que cette école-là à Repentigny, justement, est composée de beaucoup de nouveaux arrivants? Si c'est le cas, ça se peut qui connaissent pas obligatoirement Marc Labrèche et Véronique Cloutier. Si ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés. Mais mettons qu'on va dans d'autres écoles. Mettons qu'on va dans d'autres régions de la province. Est-ce qu'eux ont plus de possibilités de connaître la culture québécoise? Probablement. Et encore là, quelle culture québécoise? Est-ce qu'on parle de la culture québécoise de la télévision? Parce que c'est un microcosme en soi. Je l'ai dit, Véronique Cloutier et Marc Labrèche sont deux têtes d'affiche québécoises. Mais est-ce qu'on est moins québécois parce qu'on ne les connaît pas? Parce que, par exemple, on n'est que sur Internet. Parce que sur Internet, il y a un vedettariat québécois qui existe. Les influenceurs québécois, autant les mâles alpha que les autres, il y en a qui font du contenu qui se peuvent. Les humoristes québécois sont un microcosme à eux autres aussi. Combien de fois il y a des pages qui se veulent humoristiques, disent « Oh, regardez tel festival, il n'y aura pas aucune vedette québécoise connue » parce que les humoristes qui sont sur la présentation sont des humoristes connus dans le milieu de l'humour, connus dans le milieu du podcast, mais effectivement, parce qu'ils ne sont pas passés à « Je viens vers toi, bonsoir, bonsoir » ou autre émission un peu humoristique, ils n'existent pas pour le commun de la culture québécoise. Fait qu'il faut faire attention. Peut-être, et c'est normal, que des gens qui viennent d'arriver ne connaîtront pas Sébastien Diaz à Radio-Canada ou Marie-Louise Arsenault IC Première et RDI. C'est normal parce que ce ne sont pas les publics cibles de ces émissions-là, première chose. Je n'imagine pas beaucoup un auditoire de 13 à 15 ans qui vont revenir à la maison pour écouter « On va se le dire » à IC Radio-Canada Télé. Donc, est-ce que les jeunes ne consomment pas de culture québécoise? C'est dur à dire. Parce que s'ils sont sur Internet, s'ils sont sur Twitch, il y a beaucoup de streamers québécois qui existent. Stéphanie Harvey, à la limite XQC, même s'il est exécrable, mais ça reste un gars de Laval. Stéphanie Harvey, qui est une gameuse professionnelle, a son public. Donc, c'est pour ça même les gens, quand elle est allée à Big Brother Célébrité saison 2, disaient « C'est qui, elle? » Moi, je sais c'est qui, parce qu'elle a fait des chroniques à Monsieur Net, à Musique Plus, et justement, parce qu'elle a gagné des compétitions de jeux vidéo, compétitions que j'ai pas vues, mais je savais son parcours. Et dans son cas, elle a déjà gagné beaucoup d'argent en gagnant des tournois de jeux vidéo, parce que des tournois de jeux vidéo, c'est très, très payant. Fait que de dire qu'elle n'est pas connue parce que le grand public de... on va se le dire, ne sait pas exactement c'est qui, faut faire attention. Quand on parle de découvrabilité du contenu québécois, ce qui serait pertinent, bien c'est sûr que si on ne sait pas ça existe, ça va être difficile de dire qu'on connaît la musique québécoise. Parce que dans le cliché, pour plusieurs encore aujourd'hui, la musique québécoise, ça s'arrête à la musique folklorique et à la musique traditionnelle. T'sais, pour eux, on dit musique québécoise, ça va être la bottine souriante, ça va être de la musique à répondre. Fait que c'est sûr que ça sera pas, peut-être pas, leur premier choix. Mais la musique québécoise, c'est beaucoup plus large que seulement la musique traditionnelle, évidemment. Mais quand on arrive après ça sur des plateformes, et là, je peux comprendre cette partie-là, si ce n'est pas... ce n'est pas répertorié ou du moins si ce n'est pas mis de l'avant, c'est sûr que ça va passer dans le beurre. Des plus jeunes, tu sais, Spotify, pour ne pas les nommer, ou YouTube Music, peu importe, ont des catalogues impressionnants, oui. Mais par exemple, les Beatles, les Rolling Stones, ces groupes-là mythiques, quand même qu'ils soient disponibles, si tu ne sais pas ça existe, tu ne les entendras jamais. Évidemment, pour du monde dans la trentaine comme moi, ce serait inconcevable de ne pas savoir qui sont les Beatles et les Rolling Stones. Mais la plus jeune génération, tu leur en parles jamais. Tu leur mentionnes jamais les noms de ces personnes-là de cette époque-là. Tu leur dis pas que ça existe sur Spotify. Ils n'iront pas cliquer d'instinct là-dessus, c'est sûr et certain. Fait que si la musique québécoise n'est pas découvrable, si les séries québécoises sont confinées aux plateformes québécoises qui demandent des abonnements de 10$ par mois, évidemment que cette jeunesse-là n'ira pas nécessairement les voir, pas juste parce que les parents n'y vont pas. Mais si ce n'est pas accessible, et si ce n'est pas accessible facilement, c'est sûr et certain que ça passe 10 pieds par-dessus leur tête. Après ça, tu ne peux pas les forcer non plus à regarder Annie ses hommes, Fugueuse, puis 19-2, parce que ça fait partie de la culture québécoise. Ça fait partie de la culture québécoise des gens qui regardent la télé, qui regardent le câble, et... qui peuvent regarder Netflix maintenant qu'il y en a une partie quand même là-dessus. Mais encore une fois, l'onglet « Série canadienne et québécoise », mais je pense que c'est « Série canadienne », c'est pas le premier onglet quand tu ouvres ta plateforme sur un nouveau compte. C'est sûr, si tu t'y intéresses un peu, tu as déjà regardé un contenu québécois, il va t'en suggérer d'autres. Mais d'instinct, est-ce que tu vas vouloir aller regarder ton contenu local, même s'il est bien identifié sur la première page? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est tout ça toute l'espèce de débat en ce moment de la découvrabilité. J'ai envie d'y aller beaucoup plus large. Pas juste de dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon. C'est juste la découvrabilité, la manière de trouver les choses qui est compliquée. Dans cette culture québécoise-là, dans cette culture populaire québécoise, j'ai envie de dire, il y a des émissions de télévision qui ne sont plus disponibles nulle part. Parce que lors de la vente de TQS, on a détruit des archives. Parce que TVA n'a pas gardé l'entièreté de ses collections non plus. Il y a des émissions de télévision qui sont perdues à jamais. Que les seules traces qu'on va avoir de ces émissions-là, c'est des gens qui, à l'époque, ont enregistré sur VHS, ont fait des enregistrements et qui peuvent en remettre quelques-uns sur Internet. Il y a des chaînes sur YouTube qui se spécialisent là-dedans, qui se spécialisent dans les séries un peu disparues, mais qui, ironiquement, vont peut-être se faire censurer sur YouTube parce qu'ils n'ont pas les droits. Tu sais, des vieux épisodes de la guerre des clans avec Luc Sonné, tu ne pourras pas trouver ça ailleurs que sur Internet, sur ces chaînes spécialisées-là, parce que les tapes à TQS ont été détruits. Les archives ont été détruites de ça. Et ça, c'est pas bon pour la mémoire collective, justement. Après ça, évidemment, là, je ramène ça aux jeunes, mais évidemment qu'ils n'iront pas écouter la guerre des clans 1995, c'est sûr que non. Mais ça reste quand même problématique que des émissions comme ça n'existent plus ailleurs. Je parlais d'Annie et ses hommes. Pour une raison totalement étrange, seulement les saisons 4 à 7 sont disponibles en DVD avec un résumé de la 1, 2, 3. Mais les épisodes complets, les 26 heures des trois premières saisons n'existent pas. Saison 1, 2 ou saison 1, 2, 3. Puis encore là, des DVD en général, ça n'existe plus non plus. Fait que même ces sources-là sont à disparaître. Et ça, évidemment, pour la culture au sens large, ce n'est pas bon. Mais après ça, c'est sûr que c'est niché, ça reste un téléroman parmi tant d'autres. Mais on ne peut pas dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise parce qu'ils ne connaissent pas Cœur de pirate et Guylaine Tremblay. C'est beaucoup plus large que ça. Et justement, parce qu'il y a une culture Internet, parce qu'il y a des vedettes Internet, ça reste un milieu culturel, même si ce n'est pas connu du grand public. Donc, il y a plusieurs niveaux. Est-ce que 100% de la jeunesse québécoise ne s'intéresse pas à la culture québécoise? Évidemment que non. C'est sûr que peut-être cette classe-là, cette école-là, les pourcentages n'étaient pas bons quand Mathieu Lacombe est allé là. Mais là, évidemment, il va partir en peur puis il va dire que toute la jeunesse n'aime pas la culture. Mais voilà, il faut faire attention. C'est un cas dans une école, point. Ce n'est pas l'ensemble de la génération québécoise, j'ose croire. Mais c'est sûr qu'il faut les intéresser avec du contenu qui va les intéresser. Et pas uniquement des choses qu'on pense qui vont les intéresser. Parce que là, c'est sûr qu'on va les perdre. Courte pause, on retrouve la conclusion de l'émission cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. On est de retour au deuxième service, Audrey Michel, qu'on vient d'entendre en musique. Rapidement, pour terminer, une question intéressante qui a été posée, c'était sur le site de Radio-Canada cette semaine. Pourquoi le cinéma et la télé s'arrachent les jeux vidéo? Pourquoi soudainement ça devient vendeur, ou en tout cas, on a réussi peut-être à conjurer le sort, parce que jusqu'à tout récemment, les films de jeux vidéo étaient toujours très mauvais. Ou en tout cas, c'était très mal exploité. Et ça fonctionnait moyen. Au sens où les adaptations se faisaient malgré tout. On partait techniquement de jeux vidéo qui ont des aspects cinématographiques à l'intérieur. Les scènes, des fois, entre deux tableaux, vont être ultra cinématographiques. Mais pourquoi rendu au cinéma, ça ne fonctionne plus? La question était posée. Jusqu'à récemment, le sort a été contré. Soudainement, les trucs devenaient un peu bon par rapport avec les jeux vidéo. Notamment The Witcher sur Netflix, le film Mario qui a fait des records au box-office, The Last of Us, Borderlands. Fait que des jeux récents, sauf Mario, qui ont réussi à percer à l'écran, qui ont réussi à avoir une deuxième vie à la télé, au cinéma. Pourquoi ceux-ci ont été capables et où les autres ne l'ont pas été? Faudrait demander à celui qui a réussi à mettre le doigt dessus. Il y a une volonté très forte de réduire le risque commercial, surtout pour les productions très onéreuses, explique Fabien Richet, professeur de l'École des médias de l'UQAM. Les grandes propriétés intellectuelles de jeux vidéo répondent à ce besoin. On s'appuie sur leur popularité pour s'assurer une certaine rentabilité. De l'autre côté, ça permet d'augmenter le nombre de joueurs et de joueuses. Ça reste quand même un contre-effet. Une personne qui regarde la série ou le film va peut-être vouloir y jouer ensuite, dit-il. C'est pas gage de succès non plus. T'sais, le film avec Borderlands, avec Jamie Lee Curtis, n'a pas particulièrement bien fonctionné parce que c'est trop vague. Et peut-être on est en train de tomber justement sur cette vague descendante de films, de jeux vidéo. Autant que Sonic a bien fonctionné. Sonic 3, on a annoncé Shadow dans la dernière bande-annonce. Mais de toute façon, il était teasé à la fin du 2. Fait que probablement que ça va être correct. Mais un film comme Minecraft avec Jack Black qui s'annonce très étrange, ne serait-ce qu'avec les premières bandes-annonces, Jason Momoa avec une perruque aussi, c'est très étrange. Fait que est-ce qu'on est un peu sur la pente descendante de ce côté-là? T'sais, justement, le point d'interrogation de « Ouais, Borderlands, ça n'a pas marché. Minecraft, est-ce que ça va être un échec? » Ou est-ce que ça va fonctionner beaucoup, mais pour les mauvaises raisons? C'est une possibilité aussi. Est-ce que le deuxième film de Mario a fonctionné? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a vraiment un film de Zelda en chantier? On ne le sait pas non plus, mais ça ne serait pas impossible. Les rumeurs voudraient que Nintendo fasse un film de chacune de ses franchises ou à peu près pour peut-être, éventuellement, mais ça, c'est peut-être probablement plus des fantasmes de joueurs d'avoir un film de Super Smash Bros. Avec les originaux, donc avec Mario, Luigi, Link, Pikachu, Fox, Kirby, Samus, Captain Falcon, bon, que tous les personnages se rencontrent, Jigglypuff, les personnages originaux se rencontrent dans un film, un peu comme Marvel l'a été, de faire le Nintendo-verse, le Smash-verse qui affronte Créamain et Démaniac. Oui, oui, les noms en français, Créamain et Démaniac. Donc, voilà. Est-ce que réellement, c'est quelque chose qui est dans les chantiers? Ça ne serait pas impossible. Nintendo aime beaucoup l'argent, ça, c'est sûr. S'il y a un élément que les adaptations réussies ont en commun, c'est l'inclusion des têtes créatrices de jeux vidéo dans la production du film ou des séries télé. Shigeru Miyamoto de Mario de Nintendo était sur la création du film. C'est même lui qui l'a annoncé dans un Nintendo Direct que le premier et le deuxième film étaient en chantier. Pour The Last of Us sur HBO, Neil Druckmann, une des têtes créatrices du jeu, était parmi les conseillers. Fallout, le concepteur et producteur de Bethesda, Todd Howard, a prêté main forte à la production de la série télé d'Amazon Prime. Donc, est-ce qu'il faut garder les têtes dirigeantes sur des projets? Peut-être. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Parce que ça serait très surprenant que Shigeru Miyamoto ait donné son aval pour le premier film de Mario Bros. En 95 avec du monde qui ne savait pas ce qu'il était en train de faire. En général, est-ce que c'est peut-être ça la réussite? Est-ce que c'est d'avoir les créateurs des jeux sur les productions? Peut-être. Est-ce que ça va aider? Ou en tout cas, ils vont peut-être être là pour lever un drapeau de dire « Ouais, mais dans le jeu, c'est pas de même qu'on ferait ça. » Évidemment, ils n'ont pas le choix parce que justement, les gens qui vont voir ce genre de film-là s'attendent à retrouver peut-être un certain esprit qu'il y a dans les jeux vidéo en question. Donc, il faut faire attention. Ce sont des gens très... très, très minutieux du détail, de voir les bons détails aux bons endroits. Donc, peut-être est-ce que ce sera un risque avec Minecraft, sait-on jamais. On s'arrête là-dessus pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. Ici même sur les ondes de CFAQ, 88.3 Sherbrooke et de Chiz, 94.3 à Québec, 94.3 à Québec. Bonne fin de semaine, bonne fin de journée. Restez bien branchés sur les ondes respectives. À la semaine prochaine. Salut.